Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Merci à vous qui vous joignez encore à moi pour cheminer une fois de plus en compagnie des femmes artistes créatrices au cours du temps. Nous arrivons à la 24e émission sur ce vaste sujet qui, si j'avais écouté l'entourage, se serait seulement limité à une seule de 30 minutes, et encore. Bon, malgré tout ce temps consacré aux femmes artistes créatrices, je suis sûre d'avoir encore oublié où je suis passée à côté de personnalités qui auraient certainement mérité d'être présentées. Alors qu'elles m'en excusent, hein, je leur parle comme si elles étaient vivantes, et elles le sont pour moi parce que je chemine à leur côté depuis quelques mois. Aussi, il me plaît de penser que, comme les vases communicants, dans l'invisible peut-être, grâce à mes intentions positives et de la lumière que je déverse sur la plupart d'entre elles, toutes en recueilleront quelque chose. Enfin, c'est un peu de la pensée magique, hein, mais les artistes, en règle générale, ne vivent-ils pas entre deux mondes? Mais revenons au cours de notre histoire, nous voici maintenant au XXe siècle. Le dernier numéro de La Voix des Arts a totalement été consacré aux femmes peintres expressionnistes, lesquelles sont majoritairement allemandes, de la nationalité où a émergé ce courant qui se caractérise principalement par sa force évocatrice. Restons encore là un peu en compagnie d'une artiste d'origine allemande, puisque son père l'était. Il s'agit de Merete Oppenheim, née en 1913, qui, elle, fait partie des surréalistes. Alors, le mouvement surréaliste fait appel à l'inconscient, aux forces psychiques qui vont guider l'expression artistique. La créativité est libre et semble affranchie du contrôle de la raison, ce qui ne veut pas dire qu'elle est dénuée de sens. Alors, un exemple d'une œuvre de Merete Oppenheim, c'est son déjeuner en fourrure, réalisé en 1936 et composé d'une tasse avec sa soucoupe et la cuillère entièrement revêtue de fourrure. Alors, Merete Oppenheim était écrivain, peintre, plasticienne. Elle a commencé très tôt à dessiner, à s'intéresser à l'art. Elle aimera aussi bricoler, détourner des objets. Elle aussi décidera de venir sur Paris pour poursuivre une carrière artistique. Elle y rencontrera évidemment les surréalistes André Breton, Max Ernst, Hans Arp, entre autres, et se mêlera à eux. Et au cours de sa carrière, entre autres créations, elle dessinera costumes et masques pour une pièce de théâtre, écrira un recueil de poèmes intitulé Zanzibar, et nous pouvons dire que ses créations sont personnelles et originales. Et elle aura l'idée, par exemple, de fabriquer une table dorée avec des pattes d'oiseaux. Alors, comme c'est une originale, cette idée un peu folle lui passera par la tête lors d'une fête de printemps qu'elle organise en 1959. C'est de présenter le repas sur le corps d'une femme nue, et puis d'autres fantaisies de ce goût. Alors, elle recevra néanmoins le Grand Prix de la ville de Berlin en 1982 et inaugurera à Berne sa fontaine, plutôt insolite en effet. Alors, entre autres créations, je citerai encore celle intitulée « Ma gouvernante ». Il s'agit d'une paire de chaussures blanches à talons et ficelées et présentées comme un rôti sur un plat en argent et qui aurait été abîmée par une femme jalouse de savoir Merete Oppenheim en amour avec l'homme qu'elle aimait. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, c'est aussi ce que j'ai lu là concernant sur différents médiums quand je me suis intéressée à cette œuvre. Alors, souvenez-vous qu'en matière d'originalité surréaliste, je vous avais parlé de l'Argentine Hélène Agar qui avait créé en volume aussi des œuvres curieuses et insolites. Alors, apparemment, beaucoup de femmes avaient adhéré au surréalisme. Et Simone de Beauvoir, d'ailleurs, aurait abordé le sujet dans son ouvrage « Le deuxième sexe », s'étonnant que ces femmes soient parées par les hommes de toutes les vertus, la beauté, bien évidemment, la poésie, etc., mais sous condition qu'elles se modèlent au regard que ceux-ci portaient sur elles, comme si celles-ci n'existaient que par rapport à ce regard en étant autre qu'elle-même. Bon, c'est globalement le résumé que je peux en faire. Alors, j'ai lu Simone de Beauvoir, mais il y a longtemps. Je me souviens globalement du contenu d'écrit que j'ai recherché, mais je n'ai pas trouvé chez moi. Il y a plus de livres dans les cartons que dehors en ce moment. J'aurais bien aimé vérifier, relire ce passage par rapport au surréalisme. Alors, je dois dire que pour faire ces émissions de La Voix des Arts, hein, ce que vous savez si vous m'écoutez et que je rappelle, c'est que je manipule beaucoup d'informations que je recoupe en glanant tout ce que je peux grâce à de multiples supports pour rester le plus objective et proche de la vérité possible, si bien que parfois je ne sais plus, si je ne le note pas tout de suite, d'où j'ai tiré l'information. Mais rien ne vous empêche de chercher par vous-même et peut-être de relire ce qui a été écrit, notamment sur les femmes qui traversaient leurs époques. Et pourquoi pas Simone de Beauvoir ? En l'occurrence, ici, il s'agit de la première moitié du XXe siècle qui a vu émerger des figures féminines rebelles, insatisfaites d'être maintenues sous le boisseau sous prétexte qu'elles étaient nées femmes, alors qu'elles manifestaient des qualités ou des talents notables, voire remarquables, qui apportaient aussi une plus-value à la société. Alors, pour revenir à Simone de Beauvoir, puisque j'en parle maintenant, je rappelle qu'elle est née en début du XXe siècle, en 1908, qu'elle était écrivaine, philosophe et a beaucoup écrit sur la condition féminine. Et c'est dans ce livre phare, justement, intitulé « Le deuxième sexe », qu'elle nous a livré une analyse de la condition féminine et ce livre a provoqué beaucoup de réactions de la part du public. Alors c'est quelqu'un qui a pu poursuivre ses études, puisqu'elle est agrégée de philosophie. Elle aurait été reçue deuxième à l'examen derrière Jean-Paul Sartre, qui lui est devenu par la suite son compagnon de vie, on va dire ça. Je pense que tout auditeur connaît le philosophe écrivain Jean-Paul Sartre, hein, je n'ai pas besoin de le présenter, sauf que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont été unis au temps, ou plus ou moins, hein, par une complicité amoureuse et intellectuelle, puisqu'ils ont échangé, travaillé ensemble, participé à des créations, notamment une revue existentialiste. On peut dire qu'ils ont conjugué une même indépendance d'esprit, leur liberté à être ou à exister, pour cheminer ensemble. Alors nous allons faire une pause musicale, hein, comme je vous l'avais annoncé dans cette série sur femmes artistes et répétées. Nous allons écouter une compositrice, une femme compositeur. La personne que je vous propose aujourd'hui n'est pas de la même époque, même si elle est décédée en 1937, car elle est née en 1858. Elle reste en effet fidèle à un certain classicisme, en créant des œuvres néanmoins assez romantiques, je dirais sensibles. Mais peu importe, hein, car c'est une femme talentueuse qui laisse à la postérité une œuvre importante, puisqu'il s'agit de pas moins de 300 pièces, surtout pour piano, mais également de la musique de chambre, et qui en tant que femme a aussi lutté pour pouvoir s'exprimer et évoluer selon sa nature d'artiste au milieu des préjugés qui circulaient à l'encontre des femmes cette fin du 19e, début du 20e siècle, surtout celles qui désiraient suivre leur vocation artistique. Alors cet artiste retient maintenant l'attention des musiciens. Il a fallu attendre près de 70 ans pour la sortir de l'ombre. Alors j'ai entendu sur une radio il y a peu de temps, et je ne sais plus si c'est Radio Classique ou France Musique, une de ses œuvres. Aussi j'ai envie de la mettre à l'honneur dans La Voix des Arts. Il s'agit de Mel Bonis, de son vrai nom Mélanie Hélène Bonis. Elle prit, paraît-il, ce prénom de Mel, dont on ne sait s'il est féminin ou masculin, pour éviter tant que faire se peut les confrontations désagréables, les obstacles, les rejets liés à la féminité et par extension à une musique composée par une femme. Dans ce cas, les oreilles se bouchaient automatiquement et l'affaire était classée, car rien de sérieux ne pouvait sortir d'une femme. Il paraît même que Camille Saint-Saëns, pourtant artiste que l'on présume sensible autant que talentueux, mais sans doute mal informé du fait féminin, étonné par les capacités de Mel, aurait dit « Je ne croyais pas qu'une femme puisse écrire cela, elle connaît toutes les ficelles du métier. » Bon, de musicien-compositeur, bien évidemment. On peut supposer qu'il devait aussi être au courant des interdits à l'égard des femmes, et cela semble toujours miraculeux lorsque l'une d'elles réussit à passer outre. Alors, dans La Voix des Arts, j'ai évoqué la vie et l'œuvre de musiciennes qui, elles aussi, ont souffert et sont maintenant redécouvertes et appréciées en tant que personnes compositrices de surcroît. Alors, essayons de voir un peu plus près qui est Mel Bonis, hein, d'où vient-elle, qu'a-t-elle fait dans sa vie, à part composer. Alors Mel Bonis est issue d'une famille bourgeoise, d'industriels. Son éducation est celle d'une fille de famille n'ayant pas droit au chapitre, destinée à suivre les volontés familiales, à se marier, à faire des enfants et à se conduire en bonne épouse et mère, bref, tout ce que l'on attend de ses filles. Évidemment, personne n'envisage qu'elle puisse exprimer une volonté personnelle ou même des velléités de création ou d'expression artistique. Alors, comment est-elle venue à la musique alors que le milieu ne manifestait aucune disposition particulière ni même d'encouragement ? Eh bien, un vieux piano se trouvait là, certainement abandonné à lui-même, que Mel a su éveiller de son long sommeil. Car à ce qu'il paraît, il lui plaisait de reproduire les musiques qu'elle entendait jusqu'à elle-même essayer de composer, ce qui n'était pas du goût des parents, plutôt incommodé par les sons que produisait leur fille. Alors heureusement pour Mel, un ami des parents, Jacques Maury, musicien et futur professeur au Conservatoire de Paris, remarque les dispositions particulières de la petite et insiste pour qu'elle suive des cours de solfège et de piano. Ce qu'elle fera à l'âge de 12 ans, pour brûler les étapes, suivre des cours de plus en plus sérieux et difficiles, jusqu'au conservatoire, pour révéler un talent exceptionnel pour la musique et en recevoir d'excellentes notes et récompenses. Alors, c'est une jeune fille, elle va s'amouracher tout naturellement d'un musicien, hein, c'est de l'âge en général. Élève comme elle, nommé Amédée Etiche, qui deviendra par la suite un chanteur reconnu, sauf que cette relation déplaît à la famille, qui fera tout pour remettre leur fille dans le droit chemin, si bien qu'ils l'arracheront à la musique et à l'amour, l'amour de sa vie, et réussiront à la marier à un industriel de 25 ans son aîné, deux fois veuf et père de 5 enfants, rien que cela. Enfin, voilà une qui a donné, à qui on a donné de quoi s'occuper sérieusement et utilement dans la vie, si je puis dire. Alors, elle mettra à son tour 3 enfants au monde. Bref, elle aura rempli son contrat. Quoi qu'il en soit, elle reverra son amoureux plus tard, hein, comme quoi l'amour attire toujours comme un aimant. Ils s'épauleront, mêleront leur créativité à leur amour. Il lui ouvrira même des portes dans le domaine musical pour éditer et diffuser sa musique. Et pour couronner cette belle alliance d'artistes amoureux, ils auront un enfant ensemble. Un enfant illégitime, cela va de soi. Une fille prénommée Madeleine, dont la naissance restera secrète à la grande douleur de la maman qui confiera ses tourments à la musique. Alors, elle sera obligée de révéler l'existence de sa fille à son fils, car sans savoir qu'ils sont frères et sœurs, ils tomberont amoureux l'un de l'autre. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Quant à sa musique, elle continuera tant bien que mal à composer, et ses créations se feront tout de même entendre dans des lieux en vue, par des interprètes plutôt prestigieux pour certains, mais elle ne sera jamais réellement soutenue dans son art, par son environnement. Et les dernières années de sa vie, le monde ne l'intéresse plus, elle en a assez, ce qu'on peut comprendre. Vieillissante, elle restera recluse chez elle, trouvant réconfort dans la spiritualité, et elle décédera à 79 ans. Et de Mel Bonis, je vous propose d'écouter une sonate suite pour flûte et piano.
Thank you.
Après ce petit intermède littéraire éclairant suivi d'une musique sensible, nous allons reprendre notre cheminement en compagnie d'artistes, surtout plasticiennes, et je vous propose de poursuivre avec Leonora Carrington, née en 1917, d'origine anglaise et irlandaise, peintre mais aussi écrivaine, une artiste qui, en même temps que sa découverte du surréalisme, rencontra l'amour avec Max Ernst et manifesta son caractère rebelle et épris de liberté en quittant son pays, malgré les oppositions de sa famille, pour suivre son amoureux en France. En cela, elle a eu plus de courage ou d'audace que Mel Bonis pour s'opposer à son environnement. Alors, il faut dire que Leonora Carrington était de nature indocile, se rebellant ouvertement contre l'autorité paternelle un peu trop stricte, enfermante à son goût. Elle n'acceptait pas la discrimination qu'elle constatait entre elle, une fille, par rapport à ses trois frères, et fut en outre souvent renvoyée des établissements scolaires pour indiscipline. Bref, c'était quelqu'un dont le caractère n'était pas de tout repos, si bien que ce ne soit pas étonnant qu'elle ait pris, comme on le dit communément, la poudre d'escampette avec Max Ernst pour s'installer avec lui et filer le parfait amour et en même temps créer, peindre, écrire, sculpter comme ils en avaient envie tous les deux. Jusqu'au moment où la guerre 39-40 éclata et Max Ernst fut incarcéré, d'abord une fois puisqu'il fut libéré, mais repris pour être envoyé, cette fois un peu plus loin, dans un camp aux Provence pour étrangers indésirables. Et malgré les efforts de Leonora et de ses amis pour le libérer, il restera prisonnier le temps de guerre. Bon, il sortira quand même pour poursuivre sa route, mais se sera séparé de Leonora car chacun prendra son chemin, un chemin différent. Et c'est au moment de l'incarcération de Max Ernst que, paraît-il, Leonora Carrington tombera en dépression. D'autres diront qu'elle pètera un plomb ou disjonctera, au choix, selon votre éducation ou culture. Alors, si elle possède un caractère volcanique, nous pouvons supposer qu'elle aura su faire un peu de bruit. En tout cas, elle se sera fait remarquer suffisamment pour être internée dans une clinique psychiatrique en Espagne, où elle s'était réfugiée avec une amie. Internement arrangé apparemment par son père, associé au consul britannique de Madrid, qui aura sans doute profité de cette période de faiblesse pour remettre la main sur sa fille afin de la mater, afin qu'elle se plie à son autorité. Mais dans cet asile, paraît-il, elle aurait été maltraitée, subissant torture, attachée à son lit pendant plusieurs jours, sans véritable soin d'hygiène, car pataugeant même dans ses excréments. Elle aurait même été violée, subissant en outre des traitements chimiques, histoire d'achever en horreur ce qui a été commencé pour la maintenir sous influence. Bref, la belle vie. Apparemment, son père Harold Carrington, un homme influent qui avait fait fortune grâce à ses affaires, l'aurait trahi et préparé un projet pour s'en débarrasser dans un pays lointain, un peu plus inaccessible que l'Europe. Ceci dit, elle réussira à s'échapper avec l'aide de ses amis et se soustraira en même temps qu'elle coupe les ponts avec son père au destin tragique qui avait été programmé pour elle, contre son gré, bien évidemment. Et elle aurait écrit, même dicté son autobiographie dans un livre intitulé « D'en bas » qui justement évoque cette période terrible d'internement. Ceci dit, elle écrira d'autres ouvrages encore, comme le cornet acoustique, le livre de Pierre, des contes intitulés Pigeon vol et bien d'autres, qu'il serait sans doute intéressant de découvrir, et là je parle aussi pour moi. Alors de ses peintures, il émane une ambiance surréaliste bien sûr aussi, mais surtout en lien avec le rêve, l'étrange. Il s'en dégage une atmosphère qui peut sembler parfois inquiétante. Bon, c'est encore cette fois-ci mon avis, qu'apparemment d'autres partagent, car comme vous le savez, je ne peux évoquer une artiste sans contempler ses œuvres. Alors j'ai lu sur des livres, d'accord, mais je signale quand même qu'Internet offre toujours la possibilité de voir au moins pour prendre un premier contact, ce que je vous engage à faire. Alors elle s'intéressait à la magie, se serait penchée sur la Kabbale, qui est un condensé de la connaissance, une des clés détenues par le peuple juif concernant les origines et le sens de la vie liée au spirituel. Et dans le même ordre d'idées, toujours pour explorer les mystères de la vie et de la mort, elle se serait intéressée au livre des morts tibétains. Tout ceci, sans doute, nourriront sa créativité, de même que son intérêt pour les mythes, et notamment mexicains, pays dans lequel elle poursuivra et finira sa vie. Alors elle exposera en 1942 au Salon international du surréalisme à New York, aussi dans la galerie Pierre Matisse et également au Museum of Modern Art et à la galerie de Peggy Guggenheim. Elle poursuivra, comme je vous l'ai dit, son existence et sa carrière au Mexique, où elle recevra des commandes notamment par le Musée national d'anthropologie de Mexico pour illustrer le monde magique des Mayas, et épousera un photographe hongrois nommé Emeriko Weiss, dont elle aura deux fils. Et par la suite, elle créera de grandes sculptures en bronze, deviendra célèbre à partir des années 60 et finira sa vie à l'âge avancé de 93 ans. Et un musée lui est maintenant entièrement dédié qui a ouvert ses portes en 2018 à San Luis Potosí, situé au nord de Mexico. Et c'est un immense musée qui regroupe la quasi-totalité de ses œuvres, notamment monumentales. Et nous pouvons dire qu'en voilà une qui l'a échappé belle, hein, qui n'a été ni cassée ni cloîtrée, parce que non conforme au dictat ambiant, et heureusement pour elle, comme pour le public d'ailleurs, car elle a réussi à poursuivre ce pour quoi apparemment elle était faite, c'est-à-dire créée en artiste. Et c'est sur ces bonnes paroles annonciatrices d'une belle fin que nous terminons ce numéro de La Voix des Arts, sur une note optimiste, hein, comme quoi s'il y a des débuts ou des départs dans la vie difficile, la fin peut être plus agréable et l'histoire se termine bien. L'inverse existe aussi, hein, nous dirons que c'est la vie qui nous oblige à composer avec elle, mais l'être humain aussi détient le pouvoir de changer et de transformer le cours d'un destin, de son destin, parfois en bien comme en mal. Il suffit parfois d'une bonne rencontre ou d'une mauvaise pour changer la donne, de la chance ou de la malchance. Bon, c'est toute une histoire d'interaction au fond. Et les artistes n'échappent pas à la règle. Alors, nos artistes femmes nous attendent pour un prochain numéro de La Voix des Arts. Je vous servirai encore de guide à la découverte de leur vie et de leurs œuvres. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et vous dire à bientôt. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.